Cavaliers select LeBron James.
Mark Aguirre.
Markel Fultz.
Team Olajuwon.
James Worthy.
Elena, puis-je te poser une question à caractère un petit peu personnel et intime?
Quoi?
Quand tu connectes un disque dur externe via un port Firewire, est-ce que tu rebootes en mode sans échec?
Attends, j'ai rien compris là. Attends, j'ai un petit truc à finir là.
Pardon.
Salut à toutes et à tous, c'est Yoz aujourd'hui. Et comme toujours, je suis avec Jasper. Salut mon pote, ça va?
Ça va? On va parler d'un joueur que j'aime bien, donc moi je suis content.
Ah, il est comme un fou, il me parle de ça, mais depuis hier, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, du coup, dans le troisième épisode des Nerdies, on a décidé de vous parler de Monsieur Ryan Dunn. Allez Jasper, je te le laisse, ce podcast, il est à toi, parle, je t'en prie.
Pour les geeks qui nous suivent, c'est un joueur que j'avais parlé il y a longtemps, je pense que c'était en février dernier. Un joueur qui tournait à l'époque à 2 points. Donc c'était un joueur en plus que j'avais parlé pour un March Madness et qui a fait une March Madness plus que moyenne. Mais qui a explosé cette saison. Alors, pour revenir par exemple sur le profil, il a du coup 21 ans, c'est un poste 4 qui vient de Virginia. C'est une recrue 4 étoiles. Virginia qui a formé des joueurs, des ailiers comme Trey Murphy, Neandre Hunter, pas dégueu comme pedigree. Il fait 2m5, 2m13 d'envergure, 94 kg, assez tanké quand même. Et il est passé par la Oak Hill Academy en high school pour ceux qui connaissent. Sa deuxième saison, du côté du coup de en ICC, du côté de Virginia. Cette saison, il a 8 points, 2,3 contre, 1,3 steals, presque une passe de moyenne, 7 rebonds. Et pourcentage à 3 points, je pense que tu en parleras ensuite.
Pareil,
pourcentage au lancer franc aussi. Pour 27 minutes, alors que la saison dernière, il jouait uniquement 12 minutes.
Concrètement, quand tu parles de la stat line, on le comprend, c'est un profil défensif.
Tu veux que je revienne un peu plus en détail sur le profil défensif?
Bah, comme tu veux, commence la joue. Est-ce que tu veux commencer sur le profil défensif ou est-ce que tu veux qu'on lâche un peu nos stats ou...
Bah, pour moi, comme on fait profil défensif parce que c'est le meilleur et ensuite dans les stats, on parlera un peu des petites complications au niveau de son jeu.
Allez, pas de soucis, je te laisse commencer du coup.
Yes, parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais je sais qu'il y a des petits problèmes avec Randon. Alors en défense, c'est. Je pense qu'on est sur le meilleur joueur défensif de la draft. Là-dessus,
oui.
On pose pas de questions.
Et puis tout poste confondu, c'est ça qui est assez dingue.
Il est capable, moi, en fait. Pardon. Il est capable de défendre.
Je vois pas, ouais, t'as raison.
Ouais, peut-être Sarr, dans le côté un peu plus versatile, mais. Il y a débat, franchement. Juste des petites stats. Il limite les adversaires à 28% spot-up, 20% d'isolation, 23% quand il défend sur le roll, et 22% quand il défend sur le ball handler. Donc on est sur un joueur totalement fou, on est sur vraiment un playmaker défensif, un joueur qui est capable de mettre un peu le chaos dans l'attaque adverse, parce qu'il fait des rotations des fois un peu bizarres, mais qui vont être hyper efficaces. Il est capable de doubler et ensuite de revenir au cercle pour faire un contre, pour ceux qui se rappellent de l'action. T'as l'impression qu'il est un peu partout et qu'il est capable de vraiment être un peu le disrupteur de l'attaque et d'enrayer l'attaque au maximum. Comme on a dit, il est excellent pour les steals, parce qu'il a beaucoup de steals. Je reprends la stat, il a 1,3. Donc ce qui est très bien pour un poste 4, parce qu'il joue poste 4 et il a même joué un petit peu faux poste 5. Et en plus, c'est-à-dire qu'il est aussi efficace dans la raquette, donc il a 2,3 comptes par match, donc c'est un excellent shot blocker, excellent rim protecteur, encore mieux en second rideau. Donc on est un vrai poste 3-4 qui peut défendre sur tous les postes. J'irais de 1 à 5. Bon, après, ça dépend quel 5, parce que quand il rend un peu de taille, c'est un peu plus compliqué. Mais physiquement, il est tanké. C'est très difficile d'attaquer sur lui parce qu'il ne lâche aucun avantage. Tu vas jamais prendre de terrain sur lui, tu vas jamais le prendre de vitesse. On est sur un monstre défensif comme Herb Jones l'a été en NCAA, par exemple.
25% sur les layups quand tu fais un layup sur Randon. Tu shootes à 25% en moyenne quand tu fais un layup sur Randon. C'est un truc de malade mental.
On est vraiment sur un joueur où il y a trop de séquences qu'on a vu cette saison de joueurs qui étaient un peu confiants parce que c'était un peu le joueur attaqué et qui sont fait shutdown. Moi, je me rappelle d'un match contre NC State qui va très loin en March Madness où il fait 8 contre en première mi-temps en défendant sur DJ Burns, qui est quand même assez large. Il défend aussi sur Diarra, il défendait aussi sur DJ Horn. Donc vraiment un joueur qui, par certains matchs, a fait gagner Virginia juste parce que défensivement, c'est un monstre.
Mais ce n'est pas le joueur parfait.
On est proche des chiffres d'Anthony Davis ou Nsie.
Ouais, très, très clairement, très clairement. Alors qu'on est sur un mec de 2m5, quoi. mais ses mensurations sont folles, hein. Ses mensurations sont folles quand même, dans un sens. Mais voilà, vous l'avez compris, on est sur le meilleur défenseur de la draft. C'est-à-dire qu'on pourrait vous sortir toutes les stats du monde, vous nous croirez, quoi. Voilà, il n'y a pas un aspect défensif où il est mauvais. En revanche, s'il n'est pas top 1 de nos boards, c'est parce que offensivement c'est beaucoup plus compliqué. Offensivement, c'est beaucoup plus compliqué, mais genre beaucoup plus compliqué. C'est pas un mauvais, hein. C'est pas un mauvais. Il a un vrai sens du cut. En transition et court, du coup, il arrive à gratter ses petits points. En revanche, sur attaque placée, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Déjà sur post-up, il tourne à 28%, donc il est très très mauvais dos au panier. Ça role pas très bien non plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que ça role pas très bien non plus.
Avec ce qui est difficile de voir à Crandon, c'est son utilisation. Ce n'est pas un joueur qui shoot, donc c'est pas un joueur qui va stretch. C'est un poste 4 du coup qui n'est pas forcément impliqué souvent sur role parce que c'est pas forcément son jeu. Donc c'est un joueur qui est excellent sur cut dans une équipe de Virginia qui est horrible en attaque. Et du coup c'est compliqué de voir des zones en fait où on a du mal à se projeter sur le rôle de Ryan Dunn en NBA. Parce que ce n'est pas non plus un bon passeur. Donc en fait, en attaque, on peut dire aujourd'hui qu'il est négatif. Concrètement. Il n'apporte ouais. pas de shoot. Il est assez bon sur cut et c'est un athlète quand même assez bon. Donc il peut finir au dunk, il est très bon dans les rebonds offensifs, dans le placement des rebonds offensifs, dans les tip-ins, les petits putback. Mais c'est trop peu pour lui être un joueur valuable en attaque. Tu vois. On a en vu fait, avec Matisse Thybulle, il faut un shoot.
En fait, il joue comme un pivot des années 2010. Quoi. Et le problème, c'est que on est sur un mec qui fait 2m5. Du coup, tu peux pas non plus... je sais pas s'il peut tenir vraiment... contre des pivots NBA sans chier un petit peu. Et du coup, ça, c'est ma petite stat un petit peu effrayante. C'est-à-dire que souvent, on prend des stats qui disent énormément de choses sur un joueur. Moi, la stat que j'ai choisie, c'est qu'en 34 matchs cette saison, Ryan Dunn a pris 34 3 points et il shoot à 20%.
Ça. Donc, alors qu'il shootait à 31% la dernière, on en prenait moins, deux fois moins.
C'est ça, donc on est concrètement sur un non-shooter. À ce niveau-là, quand on prend un par match maintenant, surtout dans une NBA actuelle où tu vois qu'un shooter average peut en prendre 6-7 par match, on est sur un non-shooter en la personne de Ryan Dunn, ce qui peut un petit peu parfois stériliser son jeu. Par contre, bon, après voilà, c'est un mec qui est très bon au cercle, mais... Très bon au dunk d'ailleurs, ça on en parlait un petit peu en off, il fait quasiment autant de dunk que de layup, enfin on est sur un joueur qui sait quand même mettre le ballon dans le panier dans des conditions, c'est-à-dire qu'il est pas totalement nul offensivement, mais vu son poste, être un non-shooter à ce point-là, ça émet énormément de questionnements. Ryan Dunn, je crois que, et je trouve que c'est une belle transition, je crois qu'on est peut-être sur le joueur de la draft qui a la plus grande amplitude de draft. C'est-à-dire que Ryan Dunn, moi je le vois en 10 dans des mocks comme je le vois en 50, quoi.
C'est ça, parce qu'il y en a qui vont se dire qu'en fait t'as le prochain Herb Jones et que si le tir clique, c'est un super joueur. Il y en a qui vont se dire qu'en fait t'as juste un Thybulle qui ne sait pas encore shooter. Donc un joueur qui est très bon défensivement que tu peux emmener en mission, un peu à la manière d'un époque Jonathan Isaac. Sauf qu'offensivement, il est quand même bien plus bas que ses prospects.
C'est ça, donc on est vraiment sur un joueur assez, assez spécial. Nous, c'est vrai que chez Symbiose, on a... Enfin, Jasper nous a fait prendre le train obligatoirement. Chaim et moi, on a un petit peu subi la propagande Ryan Dunn. Mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, du coup, qu'on a relativement assez haut. Mais il y a énormément de questionnements, en fait, sur son tir. Ce qui fait que moi j'ai vraiment du mal à voir quelque chose de très fort en Ryan Dunn au-delà de défensivement. Après, je pense que on est quand même sur un défenseur d'exception quoi qu'il arrive, mais alors quoi qu'il arrive, ce mec là sera un joueur NBA l'année prochaine, quoi. Parce que ça, en fait, le truc, c'est que t'es sur une fin de match un petit peu serrée, bah tu l'envoies, va défendre qui tu veux.
Ouais.
Va défendre Brandon Ingram, va défendre Kevin Durant, va défendre.
Et le problème, sur les plus petits joueurs, il est vraiment effrayant, quoi. Du coup, moi, la stat, pas du ma stat, ce serait son Hakim Percentage. Donc, le Hakim Percentage, c'est quoi? C'est le steal rating plus le block rating, cumulé les deux. Comme il a un block rating de 10% et un steal percentage, de 2,1%, ça fait 13%, ce qui est assez énorme, comme j'avais dit. Je crois qu'Anthony Davis, c'est du 15%, et quand tu regardes en NBA, tu dois avoir Walker Kessler, et Wemby qui sont dans les 12-15%. Quand on est vraiment sur une range de joueurs défenseurs élites, simplement.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, il y a un monde en fait où les gens prennent une claque et se disent mais attends, c'est Herb Jones en meilleur, quoi, tu vois.
Ouais, on va le voir en Summer League, voir des séquences où des joueurs ne vont réussir à rien faire contre lui. Par contre, offensivement, ils vont juste le sag, du coup le laisser shooter, et il va pouvoir rien faire contre eux.
Mais c'est là aussi tout l'intérêt de. Enfin, moi j'ai tendance à croire qu'on est quand même, sur la crème de la crème du basket en NBA, que n'importe quelle équipe peut faire de n'importe quelle personne un shooter à peu près à 30%, quoi, tu vois. Avec énormément de travail, avec des coachs de shoot, des machins. Mais moi j'y crois, j'ai envie d'y croire parce que c'est un joueur qui demain est à 33%, bah c'est juste un candidat deep point tous les ans. Et un mec qui n'est pas négatif dans son équipe, quoi.
Yes. Du coup, bah, pour les équipes, je pense qu'on peut faire les équipes et ensuite c'est bon.
Ouais, totalement. Bah oui, on a parlé de la projection. Ouais. comme on l'a dit, il y a une amplitude qui est énorme, donc c'est trop dur. Mais
c'est workout. Si dans le workout, il montre que le shoot est bon et que les mécaniques est bonne et que les équipes peuvent croire en lui, dans un bon contexte, c'est un joueur qui peut facilement partir en 20. Par contre, s'il y a des mauvais workouts et que bah, on voit qu'il y a rien offensivement, il peut partir en 40-50, quoi. Pour les équipes, parce que du coup j'ai meublé parce que je savais pas quoi chercher comme équipe.
Ouais.
Je dirais une équipe qui gagne, donc les Knicks, je pense. C'est peut-être un peu bouché sur les postes là.
Sale bâtard, je voulais dire les Knicks.
mais je me dis Thibodeau, il aime tellement un joueur de profil. Et si un joueur qui peut devenir valuable à côté de Thibodeau sera Andon, je pense.
Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Knicks. C'est l'équipe que j'allais choisir aussi. Moi, plus tôt dans l'année, on avait sorti une mock vers la période de Noël. Et moi, je l'envoyais très très haut chez OKC, il me semble. Et c'est un choix qui me plaît toujours. Voilà, c'est un choix qui me plaît toujours parce que on est sur une équipe qui gagne. Il aura le temps de se développer. Et je pense qu'OKC rapidement va être amené à avoir ce genre de joueur dans son effectif qui va venir te poser 20 minutes de défense exceptionnelle quand ton banc vient sur le terrain. Moi, OKC, c'est un choix que j'aime bien. Certes, c'est un petit peu bouché, pas encore sur les postes 3-4, mais ça peut vite le devenir à OKC parce que il y a des joueurs qui vont très vite arriver et se développer. Peut-être un Cody Williams dont on parlera un jour, je ne sais pas. Mais...
Line-up Jalen Williams, Randle, Lugansdort.
C'est ça, et même tu sais, on sait. Enfin, il y a quand même chez les fans d'OKC le questionnement de Lugansdort qui s'est posé un moment. Est-ce que t'as pas Lugansdort en 10 fois mieux en Ryan Dunn dans d'ici 2-3 ans, tu vois?
Peut-être. En tout cas, de toute façon, je pense que même si tu l'as toqué ici en tant que roleplayer, il y a du mieux en ce moment, mais on sait que sur le poste 3-4, c'est peut-être là où ils sont un peu plus fébriles. Et puis dans les rebonds, je pense que c'est aussi un excellent rebondeur. Donc ça peut être un joueur que tu associes facilement à côté de Chet, qui va en fait couvrir, pas qui va faire le roamer. Là où Chet va pouvoir rester un peu dans la raquette, c'est hyper,
totalement.
Hyper bon pour OKC, quoi.
Et en fait, le truc, c'est que tu peux totalement te retrouver avec des line-up où Chet, on a la chance d'avoir en Chet à OKC un joueur qui space énormément. Donc peut-être que déjà, Ryan Dunn sera moins un poids offensivement que s'il est dans une équipe avec un pur 5 qui stérilise un peu les attaques parce que c'est un non-shooter, quoi.
Yes.
Du coup, bah, je pense qu'on a fait, on a fait le tour pour ce troisième épisode des Nerdies, qui était sur Ryan Dunn qu'on adore, on tient à préciser. Et bah écoute, je te remercie, et puis bah, on se dit à demain.